Alors bonjour, on va lire aujourd'hui un extrait du Colonel Chabert, qui est un petit roman, une longue nouvelle, d'Honoré de Balzac, écrite en 1832, qui met en scène un personnage, en fait, qui est mort, qui est laissé pour mort, plus exactement, un colonel laissé pour mort sur un champ de bataille en 1807, et qui revient après plusieurs années d'errance, après plusieurs années de convalescence, dans une France qui ne veut pas de lui, parce que sa femme s'est remariée et a accaparé toute sa fortune et ne veut pas lui rendre, et dans une France qui veut également tourner la page de l'épopée napoléonienne qui a pris fin à la bataille de Waterloo en 1815, et donc qui ne veut pas reconnaître ce vieux colonel, héros de l'Empire napoléonien. Et donc toute l'histoire raconte en fait la bataille de Chabert pour essayer de recouvrer son identité, de recouvrer son nom, de revenir à une existence sociale pleine et entière. Donc on va étudier un passage qui est un passage important, qui se situe vers la fin du roman, passage pivot un petit peu, où se joue justement cette quête de l'identité, cette récupération de l'identité pour le colonel Chabert. Alors bonjour, on va étudier un extrait du Colonel Chabert, un roman écrit par Balzac en 1832, qui raconte l'histoire du colonel Chabert, donc d'un personnage en fait, qui a été laissé pour mort sur le champ de bataille, sur un champ de bataille napoléonien à Eylau en 1807, et qui en fait, après plusieurs années de convalescence et plusieurs années d'errance, revient dans la France de la Restauration. Le problème, c'est que sa femme, son ancienne femme en fait, s'est remariée en ayant accaparé toute sa fortune, puisqu'elle en a hérité, Chabert étant supposé mort. Et en fait, Chabert se présente à sa femme, mais sa femme refuse de le reconnaître et l'accuse d'être un imposteur. Chabert menace donc de lui intenter un procès, ce qui fait que sa femme revient un petit peu, change de stratégie, et l'attire à passer quelques jours dans sa maison de campagne à Groslay, où en fait, avec l'aide de son notaire, de son avoué qui s'appelle Delbecq, eh bien, elle va lui tendre un piège en fait, en essayant de le faire signer un acte qui va le faire renoncer à toutes ses prétentions. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce passage que nous allons lire tout de suite. Après avoir foudroyé ce coquin émérite par le lumineux regard de l'honnête homme indigné, le colonel s'enfuit, emporté par mille sentiments contraires. Il redevint défiant, s'indigna, se calma tour à tour. Enfin, il entra dans le parc de Groslay par la brèche d'un mur et vint à pas lents se reposer et réfléchir à son aise dans un cabinet pratiqué sous un kiosque d'où l'on découvrait le chemin de Saint-Leu. L'allée étant sablée avec cette espèce de terre jaunâtre par laquelle on remplace le gravier de rivière, la comtesse, qui était assise dans le petit salon de cette espèce de pavillon, n'entendit pas le colonel car elle était trop préoccupée du succès de son affaire pour prêter la moindre attention au léger bruit que fit son mari. Le vieux soldat n'aperçut pas non plus sa femme au-dessus de lui dans le petit pavillon. « Eh bien, monsieur Delbecq, a-t-il signé ?» demanda la comtesse à son intendant qu'elle vit seule sur le chemin par-dessus la haie d'un saut de loup. « Non, madame, je ne sais même pas ce que notre homme est devenu. Le vieux cheval s'est cabré. Il faudra donc finir par le mettre à Charenton, dit-elle, puisque nous le tenons. » Alors, cette scène, donc, on va l'étudier sous deux axes de lecture. Montrer tout d'abord que le colonel, le personnage, éprouve des sentiments violents et des sentiments contradictoires, très changeants. Et dans un deuxième temps, nous montrerons que c'est une scène qui est théâtralisée, qui est écrite un peu à la manière d'une scène de théâtre. Alors, des sentiments violents et contradictoires, car en fait, le narrateur, lorsque Chabert revient de cette étude de l'avoué où on a voulu le faire signer, eh bien le narrateur omniscient nous décrit ses pensées, pénètre les pensées du personnage de la façon à la fois elliptique et hyperbolique, avec l'expression « emporté par mille sentiments contraires ». Il y a une énumération de verbes au passé simple qui décrit la succession rapide des états d'âme du personnage et le changement rapide de ses états d'âme. Il redevint défiant, s'indigna, se calma tour à tour. En fait, très rapidement s'apaise cette espèce de tempête émotionnelle avec l'adverbe de temps « enfin » à la ligne 4, suivi un petit peu plus loin par le complément circonstanciel de but. Il revint à pas lents pour se reposer et réfléchir à son aise dans un cabinet pratiqué sous un kiosque. Donc ensuite, après ces quelques lignes, les pensées intérieures du personnage s'éclipsent dans les paroles du narrateur et le narrateur prend le relais pour décrire la scène dont le colonel sera le témoin involontaire. Ceci prend place entre les lignes 6 et les lignes 22. Alors suite à ce dialogue sur lequel on reviendra en détail dans le deuxième axe de lecture, eh bien, il y a une reprise d'activité à la ligne 23, une reprise d'activité et de mouvement par des notations dynamiques de la part du colonel, l'élasticité de la jeunesse, et il fut en un clin d'œil. De la même façon, la violence physique, en quelque sorte, qu'il exerce envers l'avoué Delbecq, est notée par une hyperbole à la ligne 25 et 26, la plus belle paire de soufflets qui jamais ait été donnée sur deux joues de procureur. Il a aussi le sens de la répartie vive, puisque ce qualificatif de vieux cheval qui lui a été accolé eh bien, est retourné en fait par Chabert contre Delbecq en même temps que la paire de soufflets. Il y a un retour ensuite de la part du narrateur au point de vue omniscient et un fort contraste aussi dans le comportement de Chabert dont on nous dit que la colère s'est dissipée à la ligne 28 et qu'il vit une absence de force. Il y a donc un abattement soudain et consécutif à cette activité assez intense qui était la sienne avant. Entre les lignes 29 et 33, le commentaire du narrateur sur l'action peut être interprété comme peut-être du style indirect libre, c'est-à-dire comme les pensées intérieures en fait de Chabert après sa découverte en fait de la vérité. La vérité s'était montrée dans sa nudité. Le mot de la comtesse et la réponse de Delbecq avaient dévoilé le complot dont il allait être la victime. Les soins qui lui avaient été prodigués étaient une amorce pour le prendre dans un piège. Il y a donc ce dévoilement de la vérité qui peut être interprété comme du style indirect libre ici. Et la comparaison en fait avec un empoisonnement pour interpréter le retour de ces douleurs, des douleurs au propre comme au figuré, physique et morale, qui accolent au personnage un certain pathétique. C'est donc une scène pivot dans le roman, puisque c'est ce qui va présider en fait au renoncement de Chabert à son identité, et c'est une scène donc qui a été théâtralisée en fait par Balzac, qui a été écrite un petit peu sous la forme d'une scène de théâtre, ce que l'on va essayer de montrer tout de suite. Entre les lignes 4 et 9, on a une description des lieux dans lesquels la scène va avoir lieu, qui est un peu un équivalent de ce que seraient des didascalies au théâtre. On a en effet des éléments de décor qui sont donnés par les substantifs, la brèche d'un mur à la ligne 5, un cabinet à la ligne 6, à la ligne 7, le chemin de Saint-Leu, la terre jaunâtre un petit peu plus loin. On a aussi des notations dans cette description sur les positions ou sur les déplacements des personnages. On nous dit que le colonel entra à la ligne 4 et que la comtesse était assise à la ligne 10. Entre les lignes 11 et 15, on a ensuite une situation théâtrale classique de quiproquo, en fait, dans laquelle le dialogue prend place et que Chabert écoute en témoin indiscret. Les personnages ne savent pas qu'ils sont en présence, seul le lecteur, ici dans le cadre d'un roman, ou seul le spectateur au théâtre, eh bien, c'est l'ensemble de la situation dans laquelle sont pris les personnages. Entre les lignes 16 et 22, on a des dialogues au style direct. Et ça, si on fait le parallèle avec le théâtre, ça peut évoquer tout simplement des répliques théâtrales classiques. Cette scène, ensuite, est commentée, en fait, par le narrateur, à partir de la ligne 29, avec une personnification de la vérité qui a été vue dans sa nudité, en fait, une allégorie, en fait, de la vérité. Ceci peut faire référence à la fonction du théâtre, de l'illusion théâtrale en fait, de la mise en scène théâtrale qui est de dévoiler la vérité. La mise en scène est dévoilée puisque Chabert en fait a ce destin tragique de voir en fait où ce complot dont il est fait mention à la ligne 31 le menait. Et la mise en scène est dévoilée avec l'amorce à la ligne 31 et le piège qu'on lui tendait à la ligne 32. Il y a donc cette préfiguration de la mort dont on a parlé avec cette comparaison avec le poison subtil. Et dans le cas de Chabert, c'est une mort double en fait, qui est soulignée par les deux épithètes rattachées au mot douleur, les douleurs physiques et morales à la ligne 35. C'est une mort double puisque c'est une mort à sa propre identité, à son nom. C'est une mort sociale, d'un côté, qui anticipe, en fait, sa deuxième mort, c'est-à-dire sa mort réelle, sa mort physique, qui sera racontée très peu de temps après, dans la fin du roman. Alors, pour conclure, on a donc un personnage qui passe ici, dans cette scène, d'un extrême à l'autre, de l'activité, d'état émotionnel, donc où c'est... Ces sentiments, hein, violents et contradictoires se succèdent très rapidement. Et une scène qui, d'autre part, est théâtralisée puisqu'elle est importante et puisqu'elle est une scène pivot dans le fil de la narration de ce roman de Balzac. Balzac qui utilise ici le thème du retour des morts, et c'est également le cas dans une autre œuvre qui est assez proche en fait de celle de Balzac. Il s'agit du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. À la différence près que le héros dans le Comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, se distingue de Chabert parce que lui parvient finalement, après cette longue vengeance, à recouvrir cette identité, son existence sociale pleine et entière, alors que Chabert, lui, le anti-héros, eh bien, sera forcé par la fatalité à renoncer à cette identité. Et en fait, Balzac nous présente ici l'inverse d'un roman d'apprentissage, puisque c'est un roman en fait de renonciation, et c'est une histoire qui conduit à la mort sous deux formes, à la mort symbolique tout d'abord, et ensuite à la mort réelle du colonel Chabert. Alors voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques lumières sur le colonel Chabert. Pour faire une ouverture encore plus large que celle que j'ai faite dans l'explication sur les autres œuvres auxquelles on peut relier le colonel Chabert, eh bien, il y a effectivement le Comte de Monte Cristo, mais pas seulement, hein, ce thème du retour des morts, en fait, c'est un topos littéraire assez fréquemment utilisé. Je vous renvoie à des œuvres comme l'Odyssée d'Homère, alors pas n'importe quel passage, mais certains passages bien particuliers, ainsi que d'autres œuvres. J'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur le blog, qui s'intitule dans la partie, si vous allez sur le blog, sous l'onglet conseils de lecture, eh bien cela s'intitule Le retour des morts. Donc si ça vous intéresse de faire un petit tour sur cet article en prolongement de la lecture, de la lecture analytique du colonel Chabert, vous pouvez aller là-bas. Voilà, j'espère que tout ça vous aura servi un petit peu. Je vous dis au revoir et à bientôt.